Bienvenue aux Utopiaques pour ceux qui viennent d'arriver ou ceux qui continuent la journée. On va continuer avec une conférence intitulée « L'histoire des pastels, la fiction ». Et nous avons donc du coup un joli panel ici, puisque nous avons Glenn Cook, Tomasio Pincio, François Vagheré, Francis Vagheré, excuse-moi, et Fabien Wegman. L'intérêt de cette conférence se situe surtout sur l'importance que l'histoire peut prendre parfois par rapport à la fiction et sur justement des événements qui ont un caractère tellement improbable qu'ils en deviennent parfois un pivot fictionnel. On peut penser par exemple au 11 septembre où qui aurait pu imaginer, à part quelques cadres de la CIA à l'époque, que deux avions pourraient s'écraser sur les Twin Towers, ou bien comme c'est noté dans le programme, l'histoire de ces mineurs chiliens qui sont restés par exemple pendant plus de 2 mois sous terre, tout en étant assistés et secouru avec une pression médiatique qui était parfois assez forte et assez relayée partout dans le monde. Et la première question, c'est de chacun d'entre vous, comment vous appréhendez l'histoire comme dans votre vie quotidienne ou dans votre processus d'écriture, par exemple? Je sais pas qui veut.
For me, everything is a part of history. I live less in the real world than I do in the historical fantasies that I write. So, oh man, I'm losing it here. I just took some medication for. Let me pass it on for the moment. I'll be back.
Pour moi, tout fait partie de l'histoire. Je vis peut-être moins dans le monde réel que dans la fantaisie historique que j'écris. Je m'excuse si je suis un peu lent dans mon rythme de parole parce que je viens juste de prendre quelques médicaments. Donc, laissez-moi y réfléchir un peu. Je reviens dans un instant.
All right. The example of the Twin Towers was raised and. While it was very striking worldwide, it was something that had been imagined in fiction several times already. Tom Clancy, an American writer, crashed a plane similarly into the White House. There was a Spanish, I believe, novel which used a Libyan aircraft to crash into something. So it was not a new idea. It was something that terrorists had been considering for a number of years and had failed to do several times because they simply weren't able to grab control of the aircraft.
L'exemple des Twin Towers a été soulevé. C'est vrai que ça a été un événement très frappant pour le monde entier, mais c'est un événement que la fiction avait, avec laquelle elle avait déjà joué et qu'elle avait pu imaginer. Tom Clancy, par exemple, l'auteur de Thriller, proposait dans un de ses romans le projet de faire écraser un avion sur la Maison Blanche. Il y a un roman, je crois, qui était espagnol, qui présentait aussi une attaque à base du crash d'un avion libyen. Donc c'est une chose auxquelles les terroristes réfléchissaient depuis un certain temps, mais qu'ils n'avaient encore jamais réussi à faire parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir le contrôle des avions.
Moi, ce qui m'a intéressé avec la réception de ce qui s'est passé autour du 11 septembre, par exemple, c'est de voir que l'événement était tellement énorme que beaucoup de personnes se sont demandé même si justement il était réaliste. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de théories autour de ce qui s'est réellement passé, comme si on n'arrivait pas tout à fait à se dire ça a pu se passer aussi simplement que ça. Moi, c'est une question que je me pose beaucoup quand j'écris, c'est la notion de la crédibilité, la notion de la... Est-ce que les choses peuvent se passer comme ça ? Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a les faits, à savoir on voit des avions se planter dans les tours, on voit que ça s'effondre, mais pour plein de raisons, et je peux pas prétendre moi exactement savoir ce qui s'est passé, mais ce que je vois, c'est que ça pose beaucoup de questions techniques à beaucoup de gens qui disent, par exemple, non, des tours ne peuvent pas s'effondrer à cette vitesse, de cette manière, ou les avions ne peuvent pas faire s'effondrer des tours, comme si, là encore, on devait encore questionner une certaine crédibilité des faits. Ce qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est qu'est-ce qui fait qu'on croit à quelque chose ou pas, que ça arrive sous nos yeux ou dans un roman. Et je crois que quand on écrit, on est constamment en train de se poser cette question de est-ce que mes lecteurs vont y croire, avec ce fameux problème, à savoir, c'est pas parce que c'est déjà arrivé dans la vraie vie que c'est crédible. Quelque chose qu'on décrit, même si ça pourrait réellement arriver, mais que le lecteur n'y croit pas une seule seconde, n'est pas crédible pour le lecteur. Et on voit bien que le 11 septembre était comme presque surréaliste par rapport à une certaine forme de réalité.
Je suis un petit peu embêté, je sais pas quoi dire, je comprends pas bien de quoi on est en train de parler en fait. C'est-à-dire, est-ce que le rôle de la science-fiction c'est de prédire ce qui va se passer? Ben non, mais on laisse les astrologues pour ça. Que le 11 septembre ou qu'un événement du même type soit ou... enfin. Est ou n'est pas été déjà mis en scène dans une œuvre de fiction, j'en sais rien, mais je dirais on s'en fout quoi. Enfin, je comprends pas le sujet de cette table ronde. Quand j'ai vu ça, la fiction et l'histoire, je me suis dit mais d'abord c'est la fiction, je crois savoir ce que c'est. C'est en partie de la création, en partie... Enfin bon, j'en ai parlé aujourd'hui à de nombreuses reprises, je ne vais pas revenir là-dessus. L'histoire, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas compris si on parlait d'histoire avec un grand H. Alors, c'est l'histoire qu'on apprend à l'école, c'est l'histoire du monde, la grande ou la petite, l'histoire événementielle, ou alors c'est histoire dans le sens de une histoire, story en anglais, enfin un récit de fiction. Ou alors c'est histoire dans le sens, comme on dit, voilà, tu me racontes des histoires, ça veut dire que tu es en train de me raconter des choses qui sont fausses, alors que l'histoire, c'est censé être ce qui s'est passé, ce qui est vrai. Donc c'est un mot que j'ai beaucoup de mal à définir et à voir dans laquelle de ces acceptions il est pris aussi ici. Alors je crois comprendre, vu le début, qu'on parle de l'histoire avec un grand H, l'histoire de l'humanité, des hommes et tout, et que la question qui est posée, c'est est-ce que l'histoire réussit à faire plus fort que la fiction? La réponse, évidemment, est non. La fiction prend toujours le copyright sur le réel. Quoi qu'il se passe, on trouve toujours un écrivain qui en a parlé un petit peu avant, parce que c'est... Enfin, je sais pas, je comprends pas bien, quoi. Je m'excuse. Et je tiens à préciser qu'au bar, ils servent uniquement au niveau des whiskies du Label 5, qui est un whisky très mauvais. Donc on ne peut pas m'accuser, contrairement aux autres années, d'avoir usé de... Je précise, pour ma réputation, quand même.
Uno dei brani di fantascienza... che preferisco, lo ha scritto un vostro connazionale, Luigi XVI di Francia.
Alors, une des histoires les plus belles que je préfère dans la science-fiction, c'est Louis XVI qui l'a écrite. On va voir pourquoi.
Nel suo diario, un certo giorno ha scritto «Oggi niente di nuovo».
Alors, dans son journal intime, un jour, il a écrit « Aujourd'hui, rien de neuf ».
Lo ha scritto il 14 luglio 1789.
Voilà, il l'a écrit le 14 juillet 1789. Donc, rien de nouveau ce jour-là pour lui, apparemment.
Et la cosa che mi affascina... è che ovviamente se Luigi XVI fosse vissuto nei nostri giorni e avesse avuto la possibilità di connettersi con Twitter, probabilmente non avrebbe scritto quelle parole.
Voilà, ce qui me fascine aujourd'hui, c'est que effectivement, Louis XVI, s'il avait vécu, s'il avait été là de nos jours, s'il avait eu accès à Twitter, il n'aurait jamais pu écrire ça sur son journal.
Però non è completamente vero, perché due giorni fa il nostro primo ministro è stato sfiduciato dal Parlamento italiano, e quando hanno comunicato che non aveva più la maggioranza, lui ha fatto una faccia come se non se lo aspettasse, ma in realtà lo sapeva tutto il mondo che stava per perdere la maggioranza.
Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que en Italie, il y a deux jours, Berlusconi a été désavoué par le Conseil, et quand il l'a su, il a vraiment fait une tête, la tête de quelqu'un qui ne s'y attendait pas et qui ne pouvait pas s'attendre à ça, alors que le monde entier le savait.
Et il problema è che molto spesso capita che noi viviamo nel futuro, ma non lo sappiamo.
Alors, ce qui se passe, c'est que, en définitive, nous vivons dans le futur, mais nous ne le savons pas.
Et, quindi io sono d'accordo con quello che diceva prima lui riguardo al fatto che il vero problema non è della fantascienza o comunque della cosiddetta narrativa di anticipazione, non è prevedere quello che accadrà.
Alors voilà, donc il est d'accord avec l'idée que effectivement la science-fiction n'est pas là pour prévoir ce qui va se passer. C'est pas le rôle de la science-fiction.
Ma leggere nel presente o anche nel passato le condizioni che preparano il futuro che di fatto stiamo già vivendo.
Mais plutôt le fait de savoir reconnaître dans le présent, nel presente, vero, hai detto, ce qui va arriver dans le futur. Donc d'être capable de prévoir, en vivant le moment présent, ce qui va se passer éventuellement dans le futur. Basta.
Du coup, question plus par rapport au processus narratif. Comment, je pense par exemple à Tommaso, j'ai sur les différentes uchroniques que tu as écrites, tu t'es beaucoup inspiré de l'histoire pour et de personnages populaires pour écrire. Comment vous tous vous insérez l'histoire dans votre processus d'écriture, et quelle place elle doit prendre dans ces recherches, et comment crée-t-on la fictionnalité par rapport à des faits totalement réels, enfin réels ou populaires?
I'm very much a fan, I suppose you would call it, of history. I study it every single day. I read something in some nation's history. I use it randomly in my writing. I don't ever do a one-to-one borrow from history for anything, but I will see an incident or something or other that affected the course of history, something trivial, and I will almost always try to find something like that to include in my stories.
J'apprécie beaucoup en fait l'histoire au quotidien. Je m'inspire beaucoup des événements un peu aléatoires qui se passent dans l'histoire des nations. Je ne calque jamais à l'identique, à un pour un, ni n'emprunte rien de l'histoire de cette façon. Par contre, ce qui m'intéresse, ce sont les petits incidents, les choses qui peuvent paraître un peu triviales, qui sont des choses dont je m'inspire et que je peux réutiliser. Et ce sont ces choses-là que j'utilise.
Revenu, ouais. Il y a quelque chose que je trouve personnellement très juste dans ce que tu as dit, c'est que si on a la lucidité suffisante pour examiner ce qui se passe aujourd'hui, le présent, Je pense qu'on peut, dans les grandes lignes, savoir ce qui va se passer dans un futur, pas très éloigné. Alors je rapprocherai ça de manière qui va peut-être vous étonner, à la notion de karma, c'est-à-dire arrive ce qui doit arriver et en même temps arrive ce que l'on fait arriver. C'est-à-dire c'est ce qui se passe aujourd'hui est le résultat de ce qui s'est passé hier, si on applique ça à une vision globale. Et ce que l'on fait aujourd'hui pose les bases de ce qui va arriver dans le futur et éventuellement nous tomber sur le nez dans le futur. Donc je trouve intéressant ce parallèle entre la notion de karma, qui est une notion qui s'applique à la parcelle de conscience incarnée dans l'individu et qui revient au fil de ses vies, et cette notion presque de karma collectif qui pourrait être celui de l'humanité, et donc qui pose le problème de notre responsabilité, à savoir que effectivement arrive ce qui doit arriver, mais arrive ce que l'on fait arriver par notre attitude aujourd'hui. Et je ne sais pas si je suis en dehors du sujet, mais je pense que ça m'y a fait penser, ce que tu as dit, que je trouve très pertinent.
Bon, je rebondis aussi là-dessus. Hein. Je ne sais pas aussi si ça restera dans un sujet précis ou pas, mais tant qu'on est dans une discussion, j'ai l'impression que ça recoupe aussi une notion qu'on retrouve en Asie, que j'ai lue à travers des écrits de François Julien, qui est sinologue et philosophe, qui laissait entendre justement qu'une certaine vision de voir la causalité des choses en Asie était de penser que les choses s'étaient mises en place bien en amont et pas au moment où elles arrivent. En fait, qu'au moment où la chose arrive, où l'événement arrive, ce n'est que la toute dernière étape d'une série de causalités qui elles-mêmes n'étaient pas très visibles. À certains égards, peut-être qu'un auteur de science-fiction ou qu'un auteur en général sait percevoir ces causalités infimes, celles qui sont très en amont, arrive à en déduire peut-être un tout petit peu avant certaines personnes les conséquences à venir. Et d'une certaine manière, si je devais revenir sur le rapport entre histoire passée et science-fiction, l'image qui m'a traversé l'esprit, là, c'était celle d'une chambre noire où le passé viendrait passer à travers le petit trou de la chambre noire et se déploierait ensuite vers le futur d'une autre manière. Peut-être qu'un auteur de science-fiction est capable, en analysant le passé et le présent, de se projeter d'une manière qui sera pertinente, justement, vers le futur et d'en donner une interprétation sensible.
È vero quello che dice il nostro amico riguardo il karma.
Donc il trouve que c'est très juste ce que tu dis au niveau du karma et que c'est très vrai que ça peut être vraiment cette idée-là.
Ma anche noi europei comunque abbiamo sviluppato nella filosofia un pensiero simile.
Mais nous aussi, occidentaux et européens, nous avons développé une pensée similaire.
Per esempio, Nietzsche diceva che la vera volontà è di volere le cose a ritroso, cioè volere quello che ci è già accaduto.
Alors Nietzsche disait que la vera volontà
non. È volere le cose au revoir.
Sì. Que ce qu'on veut vraiment, ce sont les choses qui sont déjà passées.
Apparentemente sembra un paradosso secondo i modelli di pensiero occidentale, ma se consideriamo questo pensiero in chiave di karma, non è affatto paradossale. La cosa più naturale che si può pensare riguardo la volontà.
Alors que c'est la chose la plus juste qu'on peut vouloir par rapport à cette volonté-là. Ce n'est pas du tout paradoxal.
Spesso capita, per elogiare uno scrittore di fantascienza, che gli venga attribuito una sorta di preveggenza.
Alors, souvent, pour pour admirer un auteur de science-fiction, on lui prête cette faculté de prédiction, de prévoir l'avenir, éventuellement de voilà.
Oh, per esempio di autori come Orwell si dice lo aveva scritto, lo aveva già scritto lui.
Voilà, comme Orwell, on disait oui, il l'avait déjà écrit, il l'avait déjà prédit.
Io ritengo che, come dire, sia un complimento sbagliato che si fa a uno scrittore.
Alors, il pense que c'est faux, ce n'est pas juste, ce n'est pas une manière de le qualifier, c'est pas comme ça.
Per esempio, nel caso di Orwell è vero, come dire, ha raccontato in 1984 un mondo in cui ci riconosciamo, ma se andiamo a prendere obiettivamente in esame tutti i dettagli del romanzo, lui ha anche sbagliato molte cose.
Voilà, alors bon, Orwell, donc d'après lui, même si tout le monde pense qu'il a prédit plein de choses et que voilà, en fait, il s'est trompé sur beaucoup de choses.
Il problema è che quando noi consideriamo una profezia, la consideriamo dopo che quella profezia si è avverata o meno. Quindi la consideriamo dal punto di vista della memoria. E la memoria è selettiva.
Voilà, donc on la considère souvent cette prédiction par rapport à la mémoire qu'on a, et la mémoire est sélective.
Sarà capitato a tutti quanti voi quando succede qualche cosa di sbagliato, di cattivo, per esempio un incidente, una cosa sfortunata, di rimpiangere tutta una serie di mosse che avete fatto in precedenza. Ah, se non avessi fatto questo, adesso non mi sarebbe successo.
Voilà, ça nous arrive à tous aussi quand on vit un moment difficile, un accident, et on se dit ah là là, si j'avais su, ah, si on avait pu faire autrement, ça ne serait pas arrivé.
Questo però è un modo illusorio di considerare il problema, perché la nostra mente, proprio dal punto di vista biologico, è programmata in modo tale di selezionare i ricordi, per cui i ricordi positivi si imprimono nella memoria come un qualche cosa di, diciamo così, emotivo. Mentre i ricordi negativi si imprimono nella memoria come qualche cosa di razionale.
D'accord. Alors, donc les choses positives, les choses belles qui nous arrivent, elles s'impriment dans notre mémoire de façon sélective, alors que les choses mauvaises, ce qui nous arrive d'accidentel, de négatif, c'est toujours par rapport à quelque chose de rationnel.
Faccio un esempio pratico. Quando, se voi vi rompete un braccio, non ve lo auguro ovviamente.
Voilà, si vous vous cassez un bras, par exemple.
Ecco, anni dopo, voi vi ricorderete che vi siete rotti il braccio e che avete provato molto dolore.
Voilà, vous vous souviendrez quelques années plus tard que vous êtes cassé le bras et que vous avez eu très mal.
Ma non ricorderete però, non riproverete quel dolore. Sapete che avete provato il dolore, ma non lo riprovate.
Voilà, vous savez que vous avez eu mal, mais vous ne ressentez plus cette douleur-là. Vous ne pouvez plus la ressentir physiquement.
Questo, come dire, serve alla nostra memoria, perché se noi provassimo costantemente tutto il dolore che avremmo provato in passato, non potremmo più vivere.
Voilà. Donc, et heureusement, parce que si, ça ne reste pas dans notre mémoire, parce que si nous éprouvions à chaque fois toute la douleur que nous avons ressentie, on ne pourrait plus vivre.
Quando noi guardiamo i romanzi di fantascienza di altri scrittori a ritroso, compiamo un processo simile, cioè tendiamo a guardare le cose che lo scrittore ha indovinato e non diamo il giusto peso istintivamente alle cose che ha completamente sbagliato.
Oui, alors c'est pareil avec un auteur qu'on lit de science-fiction. On fait attention à tout ce qui résonne en nous et qui, selon nous, est juste ou qu'il aurait prédit ou qu'il aurait senti avant, mais nous ne pouvons pas. L'ultima frase. J'essaie de.
Tendiamo a non dare il giusto peso alle cose che invece.
Voilà. Par contre, nous ne voulons pas nous rendre compte et donner le juste, la juste valeur aux choses qu'il aurait où il se serait trompé, qu'il n'aurait pas vu vraiment. Voilà. On ne veut voir uniquement que ce qui est juste et ce qui a été prédit. Voilà.
Questo succede normalmente anche quando leggiamo gli oroscopi. Ecco, se l'oroscopo ci azzecca, diciamo, l'aveva detto l'oroscopo, però quante volte l'oroscopo ha detto una serie di fesserie che poi ci dimentichiamo?
Voilà, c'est pareil avec l'horoscope. On ne voit que ce qui est juste et ce qui nous parle et ce qui résonne en nous et jamais ce qui n'a rien à voir et ce qu'on trouve complètement faux, quoi. Voilà, on se souvient, on ne voit, on a envie de voir uniquement que ce qui est juste pour nous. Que ce qui nous rappelle quelque chose ou ce qui se produit effectivement.
Questo per dire soltanto che non dobbiamo dare troppo peso a troppo valore alla preveggenza, perché di fatto non ce l'ha. In questo senso aveva ragione Nietzsche, il vero futuro è alle nostre spalle.
Voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas donner trop d'importance aux prévisions de qui que ce soit, parce que comme disait Nietzsche justement, le vrai futur est derrière nous.
Dans le même ordre d'idée, enfin, je pensais à l'horoscope avant que tu en parles. Effectivement, un écrivain de science-fiction fonctionne exactement de la même manière que les gens qui écrivent l'horoscope dans les journaux. C'est-à-dire de temps en temps, ça tombe juste, c'est normal, c'est les statistiques. Ce qui serait absolument extraordinaire, c'est que ça soit faux tout le temps. Si c'était faux tout le temps, là, il y aurait vraiment quelque chose à creuser, je pense.
Une autre idée qui me traverse l'esprit, c'est que je suis pas certain qu'un auteur de science-fiction soit de fait forcément quelqu'un qui cherche à savoir ce qui se passera plus tard. C'est pas forcément un rôle prophétique. J'ai l'impression que pour avoir un peu fait de SF en BD, que parfois un auteur de science-fiction, c'est quelqu'un qui parle beaucoup du présent, comme un auteur comique et quelqu'un qui va caricaturer le présent. C'est-à-dire que j'ai l'impression parfois que quand j'écris de la SF, je parle de maintenant caricaturé, en me disant c'est dans 1000 ans, donc je vais pouvoir pousser certains curseurs au maximum, je vais pouvoir évoquer tel travers de l'être humain ou telle qualité, mais d'une façon tellement outrancière, tellement théâtralisée, qu'elle va devenir intéressante et picturale et graphique, ce que je trouve moins intéressant pour parler de maintenant. Parce que la vérité, c'est qu'effectivement, à part quelques exemples, la plupart des écrivains de SF, Orwell, par exemple, a très bien parlé de son temps, je pense. Peut-être qu'il y a une partie de ce qu'il a écrit qui est restée d'actualité, mais il a surtout une analyse très très fine de ce qu'il était en train de vivre, lui, et de ce que l'Europe était en train de vivre. Donc peut-être aussi qu'il faut ramener l'auteur de SF à ce qu'il est, à savoir un écrivain, ou un auteur de BD, ou qu'importe, quelqu'un qui parle aussi de son temps, de maintenant et de l'être humain.
Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Je voulais aussi aborder un sujet. C'est aussi, est-ce qu'on peut considérer l'histoire, est-ce justement ces faits totalement improbables dont on entend parler tous les jours dans les médias, juste comme des constructions purement médiatiques ? C'est-à-dire que l'homme en tant que tel est à la recherche, l'homme moderne est à la recherche de divertissement. Justement avec ces situations totalement improbables, tant qu'il trouve dans la fiction, mais qui passe du coup de la fiction vers la réalité.
Alors je sais pas si je répondrai pile dans la question, mais j'ai l'impression que ce que ça évoque, c'est le rapport, là encore, entre qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un événement réel est mis en avant et fictionné d'une certaine manière, parce que les médias ne font que récupérer des éléments présenté comme réel, en appuyant sur le fait que c'est censé être vrai, puisque c'est au JT et non pas dans un roman, mais le met en scène, en reprenant les théories du storytelling et des choses comme ça, d'une manière qui va devenir une forme de fiction, de manière à assouvir quelque chose auprès des spectateurs. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut assouvir ? Alors je crois qu'il y a une demande de spectaculaire déjà, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des faits justement ceux qui dépassent la fiction, à savoir des faits incroyables, très hauts en couleur, très héroïques éventuellement, ou dramatiques, qui seraient ceux qu'on trouve d'habitude dans un roman, une fiction ou n'importe. Et inversement, je crois aussi qu'on cherche par les médias ou par les livres d'histoire à mettre de l'ordre dans des faits qui... Parce que la réalité, dans l'absolu, je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement incompréhensible. On est bombardé de faits à chaque instant qui sont des micro-faits qui sont... Enfin, je vais reprendre l'exemple qui était donné tout à l'heure de Louis XVI, s'il avait pu recevoir un Twitter. Je veux dire, actuellement, on reçoit des Twitter tout le temps. Je ne comprends pas mieux la réalité dans le sens où je suis entièrement bombardé d'informations et ce n'est peut-être que dans 20 ans que je pourrais me dire, si je suis encore vivant, je pourrais me dire, il s'est passé ça, les grands événements, ça a été ça. Et on ne le comprend après coup, et qui plus est, que par une redigestion et une certaine représentation de l'histoire. Il pourrait y avoir 5 manuels d'histoire différents qui représenteraient, par exemple, l'histoire de l'Europe sur les 5 derniers siècles. Parce que c'est des partis pris aussi, des partis pris politiques, des partis pris idéologiques, de présenter telle ou telle chose. On le voit avec la Bible, par exemple, où on sait que les évangiles ont été réécrits à certaines époques avec une idée finalement, somme toute, assez politique de ce que les premiers chrétiens voulaient faire de la religion. Donc quoi qu'il en soit, on a une envie de sens. Voilà. Et peut-être que les romanciers, eux, essaient de mettre du sens et on leur demande d'être très clairs et très simples dans leur façon de présenter les histoires, aussi parce que c'est rassurant par rapport à un réel qui est incompréhensible. Et les médias sont entre les deux. Ils tentent de présenter les choses de la manière la plus claire possible, parfois via le spectaculaire, je crois, et parfois, quand ils le font bien, par une forme de pédagogie, mais qui est une pédagogie de l'immédiat, donc qui est forcément très limitée, parce qu'on a beaucoup... Par exemple, le 11 septembre, au départ, a juste sidéré tout le monde. Parce que, là encore, on était à un moment donné où tout ce qui avait amené au 11 septembre était invisible pour beaucoup de commentateurs, et qu'il a fallu du temps pour arriver à avoir une vision à peu près compréhensible. Si je suis encore à peu près dans le sujet.
Je crois que pour le 11 septembre, puisqu'on en reparle encore... Je crois que c'était imprévisible et invisible que pour les gens qui voulaient rien voir, parce que suffisait depuis des dizaines d'années de se balader à peu près n'importe où dans le monde pour voir ce que la plupart des gens pensaient des États-Unis. Suffisait de se trimballer un petit peu aux États-Unis pour prendre un petit peu la température de l'invraisemblable arrogance de la plupart des gens qui vivent dans ce pays. Qu'un jour une action terroriste se passe sur le terrain même, c'était qu'une question de jour, enfin je veux dire, ça avait rien d'étonnant. Ça a été médiatisé, puis c'est devenu ce que c'est devenu, mais en soi c'est terrible ce qui est arrivé à tous ces gens qui sont morts, mais la totalité des gens qui sont morts aux États-Unis ce jour-là, c'est ce qui meurt chaque jour dans le monde pour tout un tas de raisons dans lesquels les États-Unis sont pas tout à fait neutres. Donc je veux dire, quand je fais pas de l'anti-américanisme là, hein, ce que je veux dire, c'est que le monde est dans un tel état que ce qui me sidère, c'est qu'on puisse s'étonner que ce genre de choses soit arrivé. Enfin, je veux dire, ce qui m'étonne, c'est que ça soit pas arrivé plus tôt et que ça ait pas encore été plus dramatique. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire. je voulais dire, parce que dans le sens de ta question, je pense qu'il y a une partie de ping-pong permanente entre le réel et l'imaginaire, la fiction. C'est-à-dire, je pense que les gens qui écrivent de la fiction se nourrissent du réel, de choses qu'ils constatent, qu'ils intègrent, qu'ils se servent dans leurs matériaux pour produire de la fiction. Et en même temps, le réel, bien souvent, se met en conformité avec l'imaginaire. Dans les sociétés anciennes, comme dans la société celte, par exemple, on sait que le rôle du héros, c'était de rendre le réel conforme au mythe. Mais même dans nos sociétés à nous, il se passe des choses comme ça tout le temps. Je prends l'exemple, je sais pas, je voudrais pas trop m'écarter du sujet, mais par exemple, la cryptozoologie, qui est cette branche de la zoologie qui s'intéresse un peu aux animaux dont on n'est pas bien sûr qu'ils existent, enfin, des animaux qui existent par le témoignage, par des mythes locaux, par des traces, mais qu'on n'a jamais vraiment vu pour de vrai. Au départ, c'est de la littérature. Au départ, c'est le monde perdu de Conan Doyle, un endroit isolé, un isola écologique dans lequel les dinosaures sont toujours présents. Où le temps ne s'est pas arrêté, mais l'évolution a continué sans que la sélection naturelle se fasse, c'est-à-dire que les dinosaures ont continué d'être là, mais les hommes sont quand même apparus. Donc il y a des... Tout ça, c'est des motifs littéraires qui ont totalement nourri la cryptozoologie, qui est une science souvent contestée, mais en même temps, le réel aussi a nourri cette science. Par exemple, à la fin des années 30, juste avant-guerre, quand on s'est rendu compte que les sélacanthes existaient encore, alors qu'on pensait qu'ils étaient disparus depuis je ne sais pas combien de dizaines de millions d'années, tout simplement parce qu'il n'y avait aucun fossile disponible depuis 80 millions d'années, on s'est rendu compte en fait que l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence. Lié au fait qu'on continuait en Afrique de découvrir des animaux de très grande taille, comme l'okapi, qu'on a découvert, je crois, en 1908 ou 1909, tout ça a fourni une espèce de crédibilité à ces spéculations. Donc là, c'est le réel qui fournissait des éléments à quelque chose qui venait de l'imaginaire. Et tout ça tourne en boucle en permanence. Les gens, par exemple, qui voient des monstres dans les lacs, à partir du moment où un nombre important de gens voient des monstres dans des lacs, c'est qu'il y a des monstres dans des lacs. Ceci dit, leur existence n'est peut-être pas physique, et peut-être que l'étude de ces monstres dans les lacs ressortit aux sciences humaines et pas aux sciences de la nature. Mais quelque part, ces monstres des lacs, ils existent parce qu'ils ont un rôle et une importance dans la construction des mythes. Et voilà, enfin, je veux dire, c'est compliqué ces rapports entre le réel et l'imaginaire. Mais en même temps, c'est totalement fascinant. Et voilà, alors je... Non, je suis un peu trop loin là, peut-être.
Non, juste pour rebondir ce que tu viens de dire, ce qui est intéressant, quand tu parles par exemple justement du fait que oui, on pouvait prévoir par exemple un attentat aux États-Unis, je suis entièrement d'accord. Je vais rejoindre ce qu'avait dit, je crois, un philosophe qui doit s'appeler Dupuis, quand il parle du catastrophisme éclairé, je crois, de l'usage d'un certain catastrophisme éclairé, qui dit on a beau savoir que quelque chose va arriver, et lui il évoque en particulier une catastrophe nucléaire ou une crise économique, il dit on ne peut jamais complètement s'y préparer. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... Le réel vient submerger l'imaginaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut se dire, oui, il va y avoir un attentat aux US. C'est l'énormité de la chose, quand elle advient, qui finit par oblitérer le sens critique, et on n'arrive plus à réfléchir d'une manière qui serait finalement rationnelle. On prend la chose dans la tête comme quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Ça me fascine, le fait qu'on ait beau s'y préparer. Dupuis parle essentiellement de catastrophe écologique, hein, en disant en gros on va vers le mur, on sait tous qu'on va vers le mur, et pourtant on n'arrive pas à l'intégrer comme si ça allait réellement arriver. On n'arrive pas en particulier à réagir de manière à l'éviter. C'est ça qui me fascine, c'est que du coup on se laisse porter par une espèce d'inertie qui ferait dire le réel nous emmène vers quelque chose qui ne peut pas être si violent. Et or la réalité peut être extrêmement violente, peut avoir des à-coups. C'est cette partie-là qui, à mon avis, crée une sidération. Ce n'est pas effectivement l'aspect éventuellement géopolitique qui consisterait à dire quand même personne ne s'attaquerait aux États-Unis, alors qu'effectivement, ils ont fait quand même un certain nombre de choses qui peut-être pouvaient expliquer une réaction.
Interessante quello che dice Feldman su diciamo, questa sorta di deriva delle catastrophi.
Oui, c'est très intéressant ce que tu dis par rapport à ces dérives des catastrophes.
Quando accadono eventi come questi, come l'11 settembre, ci sono due cose che dobbiamo considerare su un piano distinto. Uno è l'impatto dell'evento. Due, la sua portata simbolica.
Voilà, on doit considérer deux choses quand il y a des événements comme ça, comme le 11 septembre, c'est l'impact et puis sa portée symbolique, la portée symbolique que ça peut avoir.
La portata simbolica però di un evento non è uguale per tutti. I media, la televisione, i giornali tendono a far sì che sia uguale per tutti, ma in realtà non è così. Per ogni singola persona la portata simbolica di un evento anche importante può essere diversa.
Voilà, la portée symbolique d'un événement comme celui-là est différente pour tout le monde en fait, même si les médias pensent et essayent de faire en sorte que ce soit la même chose pour tout le monde, c'est différent pour chacun de nous. Cette portée symbolique, elle est spéciale à chacun.
Io ricordo che nei giorni seguenti l'attentato vidi in televisione un servizio dove venivano intervistati delle persone che vivevano in un quartiere molto povero di New York abitato soltanto da afroamericani.
Voilà, donc quelques jours après ces événements, il a vu un reportage à la télévision sur des personnes vivant dans les quartiers défavorisés de New York, donc afro-américains.
Il primo nero raccontò che mentre guardava la televisione, mentre vedeva le torri centrate dagli aerei, si stava fumando una canna.
Alors le premier personnage donc qui parlait dans ce reportage disait que pendant qu'il regardait les tours tomber, il était en train de fumer un joint.
La sua reazione di fronte a quello che vide fu: ammazza quant'è buona questa roba.
Donc pour lui, c'était extraordinaire quand il a vu ça. Lui, il a complètement halluciné. Il disait, bah, c'est incroyable, c'est génial ce qui est en train de se passer.
La roba nel senso di droga. Ah. Subito dopo intervistarono invece un altro nero, il quale raccontò la sua esperienza, e alla fine dell'intervista il giornalista gli chiese se aveva paura che una cosa del genere potesse capitare anche a lui.
Voilà, et donc lui pareil, alors on voit après un autre personnage qui lui était plus choqué, mais qui alors le journaliste lui demande qu'est-ce que ça vous ferait si ça vous arrivait à vous, comment réagiriez-vous, comment ça se passerait pour vous ça?
Questo nero disse: no, io non ho paura. E il giornalista gli chiese: perché non hai paura? Lui non disse nulla, fece soltanto un cenno con il braccio per mostrare il quartiere povero in cui viveva, il che voleva dire: qui certamente non verranno a buttare giù niente.
Oui, voilà. Donc lui, par contre, quand le journaliste lui demandait s'il avait peur pour lui, si ça devait lui arriver, il a juste montré sa maison et le quartier dans lequel il habitait. Il a dit: non, mais voilà, ici, il n'y a aucun risque. Rien ne peut arriver. Personne va s'en prendre à nous.
Quindi c'è una differenza sulla portata simbolica degli eventi che ha anche a che fare con la nostra capacità di reazione. Voglio citare un evento antichissimo. Nell'anno 1300 l'Europa fu devastata da un'epidemia chiamata morte nera.
Voilà, il veut rappeler un événement lointain. Donc en 1300, l'Europe a été dévastée par une épidémie qui s'appelait la mort noire.
Però la popolazione europea fu in grado di colmare il vuoto demografico nello spazio di una sola generazione.
Voilà, mais alors là, à ce moment-là, ils ont été capables de combler le manque démographique en une seule génération.
E probabilmente oggi non ricorderemo di questa epidemia se scrittori come Boccaccio non ne avessero parlato nei loro libri.
Voilà, et donc on ne s'en souviendrait plus si Boccaccio n'en avait pas parlé dans ses livres.
Due secoli dopo, nel continente americano, gli amerindi nativi di America furono quasi completamente sterminati dal morbillo che portarono i conquistadores.
Alors, deux siècles plus tard, donc les Amérindiens, les Indiens natifs d'Amérique à l'époque, ont été complètement exterminés par le morbillo, qui est la rougeole, qui a été apportée donc par
gli spagnoli. Il morbillo, non, come malattia, non era più letale della morte nera.
Voilà, ce n'était pas beaucoup plus mortel que la mort noire, la rougeole.
Naturalmente si pensa che gli amerindi, i nativi di America, siano stati sterminati perché non avevano anticorpi.
Voilà, alors on pense que les Amérindiens ont été exterminés parce qu'ils n'avaient pas d'anticorps.
Ma non è vero, o meglio, gli anticorpi che loro non avevano non erano gli anticorpi biologici, ma gli anticorpi culturali.
Voilà, ce n'étaient pas les anticorps biologiques qu'ils n'avaient pas, c'était des anticorps culturels.
Il motivo è che la loro agricoltura si basava principalmente su tuberi e su mais.
Alors, leur agriculture était basée uniquement sur des tubéreuses, donc des pommes de terre et le maïs.
Quindi, a differenza degli europei, di noi europei, non erano abituati alle carestie e non erano in grado di affrontare culturalmente una situazione di emergenza.
Le carestie cos'è?
Shortage. Carestia è quando il raccolto va male.
D'accordo. Il n'était pas abitué a supporter les pénuries, quelles qu'elles soient.
Quindi non svilupparono una società stratificata e complessa come quella europea.
Voilà, donc ils n'avaient pas développé une société stratifiée et complexe comme les Européens, comme celle de l'Europe.
Quindi ogni fatto mette alla prova la nostra capacità di avere degli anticorpi culturali rispetto a un evento. E questa cosa vale anche per l'11 settembre.
Voilà, donc chaque événement met à l'épreuve notre capacité culturelle, nos anticorps culturels, et ça vaut aussi pour le 11 septembre.
I haven't been saying much because I seem to have completely misinterpreted what this discussion was going to be about. I thought we were going to be talking about the mechanics and whatnot of writing and of using historical incident and whatnot as background in our stories rather than the entire philosophy of Europe and whatnot. So I...
Alors, j'ai pas dit grand-chose parce que je crains d'avoir un peu mal interprété le sujet de la table ronde. Je pensais qu'on parlerait de la mécanique de l'écriture et de l'utilisation de l'histoire et de ses incidents dans la fantasy, et nous voilà en train de parler de philosophie européenne.
C'est vrai que le point de vue est très européano-centré. Huber, je ne sais pas si le public a des questions, parce qu'il reste 5 minutes sur le programme.
Je voulais juste rebondir sur un dernier point philosophique, encore désolé. Non, pas vraiment philosophique, mais par rapport à tout ce qu'on a dit, en particulier sur l'éventuel côté prophète d'un auteur. Moi, j'ai l'impression parfois qu'un auteur est d'autant plus prophétique qu'il ne le fait pas exprès et que justement il se permet une licence poétique. Que par exemple un auteur qui chercherait à tout prix à respecter toutes les lois mécaniques ou de la physique quantique, finalement dès qu'on essaie d'être trop scientifique on a une très courte vue, je trouve, et qu'inversement quand on se projette avec une idée que le futur ça pourrait être, je sais pas, j'ai envie de penser qu'un chien parle parce que j'aime bien que l'idée qu'un chien parle sera parfois plus juste et bizarrement plus pertinente que quand j'ai tenté d'être malin et de surinterpréter le réel. Donc je trouve ça aussi bien parfois de rappeler qu'un auteur c'est juste des fois quelqu'un qui dit pas mal de conneries parce qu'elles sont drôles, qu'elles lui plaisent, qu'elles lui paraissent bonnes au moment où il les écrit, et que parfois, une fois qu'il y a eu un tri littéraire qui s'est fait, il s'avérait que dans ces conneries poétiques, il y avait des choses justes.
Buonasera. Oh, sorry. Bonsoir. Hi, everybody. Okay, you were talking about mechanics. So what about the mechanics of imagination? Mechanics in itself doesn't mean much, but mechanics related to something means much. Mechanics in conjunction with imagination. You are just, we can talk about mechanics, all right, but without imagination, what is the use of mechanics?
Juste traduire pour le public. Donc, quelle est la mécanique de l'imagination? Puisque la mécanique seule est une chose, mais quand on rajoute la dimension de l'imagination, ça en devient une toute autre. Donc, comment est-ce que ces deux aspects se mêlent ensemble?
Never mind. Okay. Another question?
Sinon, moi, je veux bien répondre, mais c'était peut-être pas pour moi.
J'étais complètement d'accord avec vous que.
Il
faut un peu délirer pour trouver du vrai, du réel, parce que la réalité est une fiction convenue déjà. Il faut bien convenir déjà de cela. La réalité est une fiction convenue, et puis il y a le réel, et puis il y a le vrai, et puis il y a peut-être encore beaucoup d'autres dimensions du vrai, du réalité, de la réalité et du réel.
Qu'on doit essayer, donc on va jusqu'où ? Qu'on doit essayer d'entremêler comme un tissu pour.
Il faut jouer avec cette strate. Il ne faut pas rester dans une strate.
Alors, juste pour revenir sur cette, si j'ai bien compris la question, et je laisserai bien entendu parler le principal intéressé, si vous l'avez dit en anglais, j'ai l'impression qu'il est, moi, je comparerais ça à essayer de raccorder deux wagons qui sont parfois un peu éloignés l'un de l'autre. Le wagon de l'imaginaire, qui permet de faire un peu tout ce qu'on veut, et le wagon, appelons ça de l'histoire, ou du réalisme, ou de la crédibilité, qui lui, par contre, nous impose un certain nombre de règles, à savoir si quelqu'un tombe de plus de 6 mètres, il meurt, par exemple, enfin, deux, trois règles comme ça, un peu basiques, mais qui font qu'on croit au récit ou pas. Or, dans le récit de SF ou fantastique, on essaie de faire croire à quelque chose qui n'est pas croyable.
Oui, mais quand il s'agit d'un récit, c'est toute autre, une toute autre histoire. À propos, là, je parlais sur le plan philosophique. Oui. Sur le plan romanesque, c'est une toute autre histoire, le vrai, la réalité, le réel. Il y a un contrat, tacite entre le lecteur et l'écrivain. C'est une autre dimension qu'il faut intégrer.
Alors, peut-être justement...
C'est une autre dimension qui ci vuole intégrer, non? I dumbfounded. Or what? No answer? No discussion? No debate?
On en revient à les différentes strates que vous avez l'air d'évoquer, à savoir le vrai, le crédible, la réalité, l'imaginaire. Toute la difficulté, c'est d'en faire ensuite. Moi, je comparais ça à un tissu, là encore, avec plein de fils.
C'est une matière.
Comment on en fait un motif à la fin? C'est-à-dire qu'effectivement, le crédible n'est pas le vrai. Le vrai n'est pas l'imagination, et pourtant il y a parfois du vrai dans l'imaginaire, parfois il y a du non-croyable dans l'imaginaire et dans le vrai. Le vrai n'est pas toujours crédible. Et on est censé en sortir quelque chose en tant qu'auteur, ou peut-être les philosophes, ou justement essayer d'y donner un sens général, et éventuellement de sortir, qui plus est, d'y donner une forme de verticalité.
Oh, donner un sens général ou un non-sens général aussi.
Oui, ça peut être un point de vue philosophique.
Il faut un jeu à l'infini, parce que
oui,
c'est
tout
ça.
Oui, tout à fait.
La réalité, le réel, le vrai, joue à l'infini.
Bah, comme, si on parle de SF, comme des auteurs comme Philippe K. Dick l'ont fait avec génie, à savoir justement interroger constamment cette notion de réalité.
Et en fait, la dimension aussi nous interroge. Les dimensions nous interrogent par le fait même qu'elles sont des dimensions plurielles.
Ah oui, c'est ça. Je ne veux pas monopoliser la parole.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il y en a une.
Oui, je vais la poser en français, mais elle s'adresse à tout le monde. Avec les écritures de l'imaginaire, le fantastique et la SF, on a dépassé les frontières, on a vu des personnes fantastiques et des mondes fantastiques. Maintenant, avec le progrès de la science, est-ce que vous pensez que l'histoire peut prendre une longueur d'avance sur la science-fiction? Ou est-ce que les auteurs auront toujours une longueur d'avance sur la science, enfin sur la science-fiction plutôt. Voilà.
I think we're behind science right now, for the most part. This, every time I pick up a popular science type magazine that to try to understand what's going on, there's stuff there that I've never heard of before that's never been imagined by anybody but particle physicists and whatnot.
Je crois que pour la majeure partie, nous sommes en retard. Chaque fois que je prends un magazine de vulgarisation scientifique et que j'essaie de comprendre ce qui est en train de se passer, je découvre à chaque fois des choses dont j'ai jamais entendu parler et que personne n'a imaginé, en particulier dans le champ de la physique des particules.
Alors, je reviens sur cette histoire de la licence poétique de l'artiste. En fait, moi j'ai l'impression que c'est entre les deux, que la science peut parfois avoir une longueur d'avance hallucinante sur des choses qu'un auteur de science-fiction aura du mal à percevoir, en particulier si on parle de la physique quantique, parce qu'elles sont de moins en moins instinctives. Il y a des notions qui sont tellement complexes qu'on ne peut plus les comparer à quoi que ce soit que l'imaginaire pourrait spontanément créer. Ça devient extrêmement complexe. Mais inversement, il y a aussi des moments où en créant quelque chose de purement poétique, on a une longueur d'avance parce que finalement on a touché quelque chose de très juste que finalement la science par un très long détour très complexe va finir par rejoindre. Et j'espère justement que ça peut laisser une place à un imaginaire plus instinctif ou intuitif ou à une poésie qui permettrait de toucher à des choses justes. Mais c'est clair, pour reprendre ce qu'il disait, il y a des fois où on lit une revue scientifique, on laisse tomber parce que de toute façon il y a des choses qui vont bien au-delà de ce qu'on aurait pu créer. Mais il y a une réaction...
Encore moins, excusez-moi. Je ne voudrais pas monopoliser le débat, mais je ne sais pas si vous avez entendu parler de la quantique du Tao, le Tao quantique. En fait, on s'aperçoit même dans les anciens textes sacrés qu'en fait, ils vont, en parlant de spiritualité, donc de la vibration la plus haute de la matière, qui est l'esprit, la matière étant la vibration la plus basse, on s'aperçoit qu'on se rejoint au niveau, que ce soit physicien quantique ou mystique. Et en fait, quand on étudie d'un point de vue quantique les textes anciens, Mahabharata, les livres anciens de Tao, on s'aperçoit qu'en fait tout est là, tout a été dit. Et à tel point que les grands penseurs indiens ont déjà exploré le conscient avant Descartes, deuxième siècle. Un chinois a exploré le subconscient inférieur, le subconscient supérieur. Il y a des philosophies indiennes bien longtemps avant nous. Donc deuxième, troisième, quatrième siècle, ils avaient déjà exploré la conscience, l'inconscient, subconscient supérieur, subconscient inférieur, etc. Donc je pense qu'il faudrait peut-être lire un peu plus dans les autres mondes au lieu de se contenter de lire des magazines.
Forse quando consideriamo questo problema della scienza, dobbiamo distinguere tra la pura scienza e il progresso tecnologico.
Voilà, quand on parle de science, on devrait faire la distinction entre la science, la pure science, et la technologie.
Et quello che dice il Signore è vero, se noi consideriamo la pura scienza è vero, allora il Tao può avere già raccontato la figura, la fisica quantistica.
Voilà, alors ce que dit monsieur est vrai, si on considère juste le Tao, effectivement, ça peut être, c'est ça, il avait déjà tout dit de la physique quantique.
Ma molto spesso la fantascienza descrive degli scenari sociali che vengono più che altro cambiati dal progresso tecnologico, per esempio la possibilità di viaggiare nello spazio, di poter trasportare le cose da un posto all'altro senza un mezzo fisico, di muoversi nel tempo.
Voilà, donc par contre les romans de science-fiction racontent souvent des progrès technologiques, le fait de pouvoir se déplacer dans le temps, de pouvoir aller comme Jules Verne aussi de la Terre à la Lune à l'époque.
E in questo senso aveva ragione la ragazza. Su questo aspetto effettivamente molte cose sono cambiate perché non abbiamo più quella fiducia nel progresso che avevamo ai tempi d'oro della fantascienza.
Voilà, e donc effectivement on n'a plus la même confiance dans les progrès de la science comme nei progressi.
Nel progresso.
Sì, voilà, dans le progrès en général comme on avait à l'époque.
Insomma, io quando ero bambino ero appassionato di Star Trek. Immaginavo che sarei vissuto in un mondo come quello di Star Trek e invece
voilà, quand il était enfant, lui il adorait Star Trek et il pensait qu'il allait vraiment vivre dans ce monde-là.
Et non, finito.
Et voilà. Donc mais non, voilà, on n'a plus la même confiance qu'avant.
Ce qui est assez intéressant, c'est effectivement de constater que au fur et à mesure où la science occidentale se développe, je pense à la mécanique quantique, à l'astrophysique, à des sciences comme ça, ce qu'on pourrait appeler les sciences d'avant-garde, je ne sais pas si le terme est juste, on s'aperçoit que peu à peu, l'Occident comble lentement son retard sur la spiritualité orientale. Et ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse, c'est quand on aura enfin fini de combler notre retard et que l'union pourra être faite entre l'Orient et l'Occident, qu'est-ce qu'on va en faire? Je crois que c'est ça qui est intéressant. Alors là-dedans, la science-fiction fait ce qu'elle peut.
Hein. On va s'arrêter là. On va laisser place à la conférence suivante. Hop.